un truc énorme.
On est en pleine délinquance juvénile.
J'ai décidé d'éteindre la télévision cet après-midi pour m'aventurer dans les rues moites puisque c'est l'été.
Radio Campus.
On est des artistes, des futurs stars.
Et bienvenue dans Écoute ta fac. Vous retrouvez votre émission préférée. Je suis pas sûre que ce soit votre émission préférée, mais je vais continuer de le croire quand même. Vous écoutez donc Cémilia, Arthur et moi-même, Anaïs. Salut tout le monde.
Hello.
Hello à tous.
Donc, pour aujourd'hui, dans une première partie, on va parler de Johnny Jane, si je l'ai bien prononcé.
C'est ça.
Avec Cémilia.
Tout à fait.
Ensuite, on discutera de la célébrité post-mortem avec moi. Et pour finir, Arthur nous parlera des assises du journalisme que nous sommes allés voir juste pour vous.
Tout à fait.
Voilà. Tout ça après un peu de musique, vous avez l'habitude. On va écouter Imperial Leather de Perk.
We'll be right back.
Et vous venez d'écouter Imperial Leather de Perk. Et tout de suite, c'est Milia.
Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe ?
T'étais pas au courant de ce qu'on doit faire.
Oui, je viens d'arriver. Non, je rigole. Rebonjour à tous. On va parler d'un artiste natif d'Orléans. En effet, il nous vient d'Orléans. Et j'ai eu la chance d'assister à un de ses concerts samedi dernier. Donc c'est ma sortie du week-end. À l'Astrolabe. Déjà, est-ce que vous connaissez Johnny Jane, les amis ?
Absolument pas.
Non.
Du tout. Bah, on va un peu en parler. Alors, ce jeune natif d'Orléans revient avec un tout nouvel EP déjà, pour vous dire pourquoi il fait sa tournée. Cet EP s'intitule Désordre, bien choisi puisque c'est dans le désordre qu'il a organisé ses morceaux. Des morceaux qui traitent de la fête, de la jeunesse, mais aussi de l'amour dans des styles différents, mais qui constituent un beau mélange. C'est la suite d'une discographie, toujours en mouvement, puisqu'il commence avec son premier EP qu'il intitule « Au pire c'est rien », avec des titres comme « Dans ma tête »,« J'avance » ou encore « Midi », à travers lesquels, cette fois-ci, il traite des déboires de la fête et des nuits sans fin, de la solitude et de la post-adolescence, mais aussi de la quête de l'identité qui nous parle à tous. Alors, Johnny Jane livre des chansons qui ne cessent de muer, souvent accompagnées de mélodies mélancoliques et de paroles brutes comme sincères. Et à tout juste 21 ans, il parvient à nous raconter des histoires envoûtantes, romantiques, pathétiques, toujours entre rêve et réalité. Alors samedi soir, pour parler de quelqu'un d'autre, c'est Philemon qui nous a fait la première partie de ce concert. C'est une belle découverte musicale, franchement je suis plutôt contente, puisque pour construire ses instrus, elle a choisi un synthétiseur et un thérémine. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un instrument qui fonctionne avec le corps, à travers l'utilisation des mains et des bras pour perturber les champs électromagnétiques. Et franchement, c'est vachement sympa à voir et à entendre. Je ne sais pas si vous connaissez ça non plus, je pense.
Non, ça ne me dit rien.
Mais je sais
non.
que la botanique, on l'avait utilisé. Je ne sais pas si vous étiez voir la botanique. Si, je crois Anaïs était venue.
Oui, je les ai interviewés.
Oui, voilà. Et ben, ils utilisent un thérémine, il me semble. Ah, mais non, ils utilisent les plantes, eux. Mais je crois que c'est le même principe avec les champs électromagnétiques. Aucune possible.
Faudra qu'on demande à quelqu'un, écoute.
En tout cas, c'est super sympa à voir et à entendre. Enfin, j'étais surprise, je ne connaissais pas du tout. Et du coup, la concernant, c'est à la suite de son premier chagrin d'amour qu'elle commence à écrire et elle n'est jamais sortie de la musique. Peut-être que je pourrais en parler dans une prochaine chronique. À voir, pourquoi pas. Enfin bref, si on en revient à Johnny Jane, le concert, du coup, c'est que son nouvel EP, dans son ensemble, cristallise l'anxiété d'une génération perdue entre la réussite et les mauvaises nouvelles. Et le dernier morceau de cette EP est un morceau de doute autant que d'affirmation de soi qui reflète parfaitement l'ensemble du disque. Alors, Johnny Jane signe avec Désordre la suite d'une discographie, comme je l'ai dit, quasi parfaite et toujours en mouvement, qui risque bien de continuer à surprendre une audience toujours plus nombreuse. Alors si je peux donner mon avis, j'ai trouvé ça sympa. En plus, on a pu y voir différentes tranches d'âge. C'était vachement sympa. Il y avait des jeunes comme des parents, comme des adultes, comme des enfants. Il y avait beaucoup de personnes. Et non, pour moi, c'était un concert assez sympa à faire. Et on a eu la chance de voyager au-delà des frontières, comme en Amérique aussi, j'aime bien le dire, avec le morceau « Vivre à l'américaine », un morceau assez dansant. Alors si vous êtes déçus d'avoir loupé ce concert, pas de panique, parce qu'il est en tournée dans toute la France. Au mois d'avril, il me semble qu'il est à Marseille, Lyon, Strasbourg, Toulouse. Vous pouvez, je ne pense pas que les places soient toutes prises, donc je pense qu'il y a encore des places libres. Et c'est disponible sur le Pass Culture sûrement. Donc je vous conseille de foncer. Et aussi, pour la petite info, il sera au rendez-vous le 10 octobre à côté, pas loin de chez nous, puisque c'est à l'Olympia qu'il se produira le 10 octobre prochain. Voilà, voilà.
Et tout de suite, moi je vous mets Alone Under the Weather de Church Child.
touched my own leg to see if I was still alive. Touched my neck to see if my heart was still beating. I know what is. I know I'm losing my
écoutez Ellen Under the Weather. Et tout de suite, moi je vous parle un peu des j'allais dire un sujet très bizarre, un peu des gens qui sont morts avant de devenir connus. Est-ce que c'est joyeux comme thème? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Alors, imaginez que vous avez un rêve. On en a tous. Semilla est pété de rire devant moi, je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas savoir.
Non, rien, t'inquiète. T'écoute.
Je disais donc, imaginez que vous avez un rêve, on en a tous des rêves, que ce rêve est de devenir connu dans votre domaine. Par exemple, pour moi et mes collègues, je ne suis pas sûre qu'on puisse appeler ça des collègues, mais ce n'est pas grave. Moi et les gens qui sont en face de moi,
camarades.
Semilla, oui, camarades. Semilla et
amis. Amis, on est copines, Anaïs.
Enfin.
Moi, je vais me faire foutre.
Mais non, Arthur, enfin.
Elle ne savait pas comment te le dire, mais bon.
Ouais. T'es ma copine aussi, Arthur.
Ouais, on va dire ça.
Notre rêve est de devenir, je crois, tous de grands journalistes, d'avoir un impact dans notre discipline. Ce rêve, il est convoité par tous les artistes du monde entier, que ce soit de comédiens à chanteurs en passant par peintres. Ils veulent que leur réalisation fasse parler et que leur nom soit placardé partout. Après tout, on veut tous devenir quelqu'un, entre guillemets. Et certains réussissent à profiter de leur gloire. Ce sont des noms dont on a parlé avant et après leur mort, ceux qui sont aujourd'hui des modèles pour les jeunes générations. Ce sont ceux dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, sont ceux qui sont en effet des modèles dans leur domaine aujourd'hui. Je dis boum, aujourd'hui c'est dingue, mais qui ont marqué les esprits par leur génie ou leur créativité après leur vivant, qui n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. En effet, nombreuses sont les inspirations d'aujourd'hui qui sont restées dans l'inconnu durant leur vie. Alors, pour ma chronique, j'ai failli citer Van Gogh, mais je pense que j'ai plus besoin de le présenter, il est mondialement connu, ou encore Elliott Smith, mais il ne rentrait pas vraiment dans le thème puisqu'il a de nombreux albums avant sa mort. Voilà. Alors je vais citer certains quand même pour avoir une idée de ce dont on parle. On a notre première personne est Jean-Michel Basquiat. C'est un artiste peintre américain, il est né en 1960 et il est mort à l'âge de 27 ans. Il avait pour mécène Andy Warhol, Alors Andy Warhol, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la personne qui a fait le célèbre tableau avec Marilyn Monroe en toutes les couleurs. Tous les deux, ils ont révolutionné l'art dit underground. C'est l'art des graffitis et du figuratif. Alors cet artiste avait une certaine notoriété, on ne va pas se mentir. Il a notamment fait de nombreuses expositions, donc il avait un certain succès. Mais c'est son addiction à la drogue et ses nombreuses tentatives de désintox, puis après sa mort, qui a propulsé son art. Comme de nombreux artistes, leur addiction à la drogue ont fait parler d'eux. Et c'est ce qui a fait connaître leur art, ce que je trouve très bizarre, un peu comme Amy Winehouse. Notre deuxième personne est une femme. Vous avez l'habitude, si je ne présente pas au moins une femme par émission, c'est que je n'ai pas bien travaillé. Aujourd'hui, on parle d'Emily Dickinson. Certains la connaissent peut-être grâce à la série, mais c'est une vraie poétesse du 19e siècle. Comme on peut s'en douter, les femmes, en ce temps-là, n'étaient pas vraiment destinées à être dans une filière, on va dire, dite intelligente. Elle écrit toute sa vie, mais avant sa mort, elle demande à sa sœur de brûler ses écrits. Preuve qu'elle ne voulait pas forcément être connue, entre guillemets. Évidemment, sa sœur ne l'a pas fait, et aujourd'hui, c'est l'une des poétesses féministes les plus appréciées, que ce soit des plus grands ou alors de la jeune génération. Et pour finir, on a notre dernière personne qui est Franz Kafka. C'est notamment l'écrivain de La Métamorphose que j'ai lu l'année dernière, donc merci Madame Hill de m'avoir fait découvrir cet auteur. Il est mort en 1924 à l'âge de 40 ans, donc lui il a quand même vécu un petit peu plus que les autres. On sait que de son vivant, c'était un passionné d'écriture, de livres, de littérature, tout ce qu'il y avait dans ce domaine. Il a notamment dit dans une lettre, si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing dans le crâne, à quoi bon lire ? Donc, comme on peut s'en douter, puisque c'est un peu le thème, il est mort avant d'être connu, et ses écrits ont été reconnus dans le monde de la littérature après sa mort. Et donc la question que j'aimerais vous poser à Arthur et Sémilia, c'est est-ce que vous préférez être reconnu après votre mort, donc avoir un impact malgré tout, même si vous n'en profitez pas, ou alors ne jamais être connu, car vous vous dites que si vous en profitez pas de votre notoriété, ça n'en vaut pas forcément la peine.
Jamais être connu, et du coup ne pas... Ouais, non. Waouh.
c'est une bonne question. Moi, je considère qu'il faut quand même réussir à influencer les gens, donc que ça se fasse par la mort, parce que... Être connu, c'est...
C'est soit on influence, mais on est mort. Pardon, je t'ai coupé la parole.
Non, vas-y.
C'est la guerre dans mon esprit. Vas-y.
C'est
soit être connu et du coup ne pas avoir avoir un impact, mais être mort et pas profiter de ça. Ou soit vivre, mais pas avoir d'impact du tout et c'est pas
ça.
Être connu.
C'est ça. Après, c'est un peu aussi genre...
C'est bizarre. Quel
est votre... Après, genre, ça revient aussi, genre, quelle est votre définition de la notoriété ? Est-ce que c'est le fait d'être connu et de... justement pouvoir profiter et de savoir, ou est-ce que c'est juste avoir un impact
sur les
autres ?
Mais quand t'es connu, tu profites de quoi en fait ?
Bah, de l'argent, mais l'argent ne fait pas le bonheur.
De l'argent et de le savoir. T'as l'ego de te dire j'ai un impact.
Oui, en fait le problème c'est que quand on est connu, nous on peut pas vraiment savoir parce qu'on n'est pas vraiment connu, mais
en effet.
Mais il y a forcément l'ego qui gonfle et puis.
Je suis pas sûr que ce soit vraiment une plus-value d'être connu.
Ouais, de y avoir, je
au
sais
bout
pas.
D'un moment, t'en as marre.
Il y a peut-être eu des études psychologiques, je suis pas au courant, mais. Parce que j'ai l'impression que plus t'es connu, plus t'as tendance à frôler l'illégalité. Cocktail, alcool, drogue...
Peu importe ce que tu fais, en
violence,
plus
tu profites...
Tu fais un petit truc qui va pas, tout le monde est là à dire « Ah, mais c'est une dinguerie ». Genre juste si tu te pètes la gueule, enfin si tu tombes pardon, dans les escaliers, on en entend parler pendant
oui,
des semaines.
Oui, en plus.
Ça marchera pas ça...
Après, il y a des mecs, ils étaient connus... Alors, quand ils étaient en vie et qui sont encore plus connus, je pense, post-mortem, et qui ont encore une influence aujourd'hui, après des années
j'suis
après
d'accord.
leur mort. Bah, par exemple, là, vendredi dernier, c'était les 30 ans de la mort de Kurt Cobain. Le mec, si j'ai bien compris, genre, il a fait genre 4 ans vraiment connu avant son suicide malheureux. Et qu'aujourd'hui, on en parle encore comme une légende, quoi.
Bien sûr.
Comme Freddie Mercury, comme...
Ou alors, on en parlait tout à l'heure avec Sémilia, mais on a Avicii XXXTentacion.
Oui, c'est des mecs qui sont partis hyper tôt, ils étaient hyper connus, et bah, là, le fait d'être connu, ça les a pas aidés.
Non, vraiment pas, du coup.
Et pourtant, ils sont... Bah,
Parce que c'est pour ça qu'ils sont morts.
Oui,
ah
voilà.
Oui, ok, oui, mais c'est bien ça, oui.
XXXTentacion, je sais pas, mais Avicii, bah, pareil, c'est comme Kurt Cobain, c'est un suicide.
Parce qu'il s'est pas fait tuer, XXX.
Je crois
que c'est une fusillade.
C'est un rappeur américain, il y en a plein comme ça, malheureusement.
Ouais, c'est une fusillade.
Ou Amy Winehouse, qui est une...
Après, il y en a qui disent qu'ils sont pas morts. Hein.
Oui, mais après, ça, faut pas les croire, ça.
Là, on va partir dans un débat de est-ce que Michael Jackson, il est mort ou pas.
Mais est-ce que la Terre est plate.
Mais c'est des mecs qui ont quand même genre une énorme influence encore aujourd'hui. C'est des légendes, quoi.
Exactement.
Alors, justement, je pense qu'il vaut mieux ne pas être connu à l'instant T, ou alors vraiment avoir une bonne hygiène de vie et, oui. et refuser tout ce qui est problématique, entre guillemets, et réussir à marquer les gens. Je pense que côté connu, il faut quand même aller influencer les gens, pas dans le mauvais sens. Hein.
Mais post-mortem, c'est une bonne idée. Enfin, oula. Bah. Ouais, non, ça va pas du tout aujourd'hui. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que au moins, t'es sûr qu'on va pas. Comment dire ? Qu'on va pas te manquer de respect parce que justement, oui. on te doit ce respect en plus vu que t'es parti, t'es plus de ce monde. Alors que maintenant, beaucoup de célébrités ne se font pas respecter, même si elles transmettent de bons messages. Enfin bon, il y a toujours beaucoup de haine, il y a tout le temps des haters dans tous les cas. Alors que quand une célébrité est décédée, bah, y a moins de haine envers elle vu qu'elle est plus de ce monde.
Oui, au final, après, ils ont peut-être vécu une meilleure vie dans ce cas-là.
Il y a l'expression aussi, alors je sais plus c'est quoi l'expression, mais rentrer dans la légende, un truc du genre.
Oui.
Et donc, en fait, tu deviens intouchable, entre guillemets, et puis genre, il y a le mythe du mec hyper talentueux qui est décédé, malheureusement, sans réellement profiter, entre guillemets. Même si c'est très caricatural, là, comme façon de penser, mais...
Non, mais moi, personnellement, je suis d'accord. Puis je pense que le plus important, c'est l'impact qu'on va avoir sur les gens, pas forcément nous, est-ce qu'on a eu de l'argent ou est-ce que... Je sais pas quoi.
Il y en a plein qui vivent, des célébrités qui vivent très classiquement et qui vraiment juste vivent pour rendre le monde heureux. Hein. Moi, je pense que c'est Kenny Reeves le meilleur exemple. Le mec, il gagne des millions à chaque film. Ouais. Et genre, il vit hyper simplement... Après, lui, il a été un peu tapé par la vie. Je sais pas, ça mériterait une chronique, mais je vais rapidement.
Sûrement, je pense que ça mériterait.
Ce mec est inspirant, c'est l'homme le plus gentil au monde. Et la vie l'a pas aidé.
Mon Dieu.
Mais bon, je peux rapidement en parler. Il a quand même perdu sa femme dans un accident de voiture, son meilleur pote d'une overdose et son fils à la naissance.
Sympa.
Voilà, donc, sachant qu'il a jamais connu son père.
Et il est très gentil, cet homme est réputé pour être très gentil. Ouais. Il fait des dons à des associations et tout, c'est ça?
Ouais. Et même, il vit très simplement. Un de ses passe-temps, c'est la journée, aller se balader dans la rue. Non, même pas, c'est juste aller s'asseoir à côté des sans-abri et parler d'eux pendant une journée de leur vie. Genre, ce mec est hyper simple, il est adorable.
Oui.
Et personne n'en parle.
Mince, j'ai oublié le nom. Et là, je m'en veux extrêmement d'un acteur que j'aime beaucoup, qui a joué dans Philadelphia, dans La Ligne Verte, dans Shutter Island. Je sais plus comment il s'appelle.
Non, là, je vois pas.
Eh bien, tant pis. Qui était un acteur, justement, qui demande qui a une clause, entre guillemets, à chaque film, il veut que les figurants soient des SDF, pour leur donner un peu d'argent.
Ah, ça, c'est bien, ça.
Voilà. C'est Tom Hanks, waouh.
Ah oui, bah voilà. Tu m'aurais dit Forrest Gump, je t'aurais dit oui, Tom Hanks.
J'ai déjà dit trois films, c'est déjà pas mal.
Lui aussi, il est très gentil.
Voilà.
En fait, t'as deux catégories d'acteurs. T'as de célébrités même. T'as vraiment ceux qui s'en fichent de tout et qui profitent. Et t'as les mecs hyper clean, enfin entre gros guillemets, personne n'est clean, mais qui font profiter, qui veulent rendre le monde heureux.
Exactement. Et ben, on passe à un peu de musique. Je vous mets Jealous de Moshak. Et tout de suite, Arthur, tu nous parles des assises ?
Oui, merci Anaïs. Alors le jeudi 28 mars dernier, nous nous sommes rendus tous les trois aux assises du journalisme à Tours. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce que nous avons pu observer et entendre lors de cette journée. Alors d'abord, c'est quoi les assises du journalisme ? Eh bien, c'est une grande convention autour du métier de journaliste qui a lieu une fois par an. Il y en a actuellement trois majeures, une à Bruxelles en Belgique pour les assises européennes ou internationales, je ne sais plus, une à Tunis en Tunisie et donc une à Tours. Cet événement est donc l'occasion de réunir tout un tas de personnes et d'organisations qui travaillent dans le secteur du journalisme, mais aussi de montrer au grand public en quoi consiste réellement ce milieu. L'événement se déroulait sur plusieurs jours durant lesquels les conférences s'enchaînaient dirigées par des professionnels du métier. Il y avait également différents stands accueillant des personnes ou institutions du journalisme. Par exemple, il y avait un stand d'information au sujet de la carte de presse, outil indispensable pour les journalistes. Parmi ces stands, on retrouvait tout un tas d'organes de presse, plus ou moins grands. On pouvait aussi retrouver plusieurs organismes radiophoniques, notamment Radio Campus Orléans, accompagné de nombreuses radios universitaires venant des quatre coins de la France. Un beau monde donc, et le monde parlons-en, l'événement étant le plus important en France au niveau du journalisme, il est normal qu'il ait accueilli des personnes venant des quatre coins de l'Hexagone. Il y avait donc beaucoup de personnes du milieu qui ont animé des conférences, nous avons pu assister à trois d'entre elles, on a pu apprendre plein de choses sur le travail de journaliste. Par exemple, on a assisté à une première conférence animée par Mejdaline Miri, je le dis sûrement très mal, qui est rédactrice en chef du magazine Les Sportives et la cofondatrice de l'association Femmes Journalistes de Sport, et avec Ludovic Ninet, ancien journaliste de L'Équipe et auteur du livre L'affaire Cécilion, Chantal, récit d'un féminicide, et Alizé Vincent, qui est journaliste chez Arrêt sur Image. Cette conférence était donc centrée sur le traitement des violences sexistes et sexuelles dans le journalisme de sport. Plusieurs questions ont alors été posées. Les journaux de sport doivent-ils en parler ? Et s'ils en parlent, quel point de vue doivent-ils prendre ? De ces questions en découlent d'autres. Le sport féminin est-il assez mis en avant dans le journalisme de sport et même de manière générale, est-ce que les femmes sont assez mises en avant et protégées, que ce soit dans le journalisme ou dans le sport ? Et surtout, faut-il mettre en place une formation sur les violences sexistes et sexuelles dans les écoles de journalisme ? Tout un tas de questions très intéressantes auxquelles le monde du journalisme est confronté, que ce soit dans le journalisme sportif ou même dans toutes les formes de journalisme. Par la suite, nous avons pu assister à une deuxième conférence sur la différence entre journalistes et supporters, toujours dans le monde du sport. Cette conférence était animée par Louise Audibert, une journaliste indépendante. Il y avait également Stéphanie Friedman, une journaliste manager de l'Alsace. Enfin, il y avait le directeur de la rédaction de L'Équipe, Lionel Dangoumeau, ainsi que Clément Gavard, qui est journaliste pour SoFoot. Alors il faut tout de même nuancer, puisque ce sujet peut être appliqué à tout un tas de domaines, la politique, le monde du cinéma, etc. Cette conférence nous a permis de nous poser différentes questions. Quelle distance faut-il mettre avec un club ? Faut-il être fan de sport pour pouvoir en parler ? Et faut-il parler de ce qui nous touche personnellement au risque de manquer d'objectivité ? Bref, plein de questions très intéressantes et très importantes pour le métier de journaliste. Les assises sont donc un événement majeur pour le milieu du journalisme et on encourage toutes les personnes souhaitant être journaliste de se rendre à cette convention, puisque normalement elle reviendra l'année prochaine. Mais du coup, Anaïs et Simia, vous en avez pensé quoi de ces assises ?
C'était génial.
On a adoré.
Ah oui, faut le faire.
Très intéressant.
Franchement, tout étudiant ou journaliste devrait y aller au moins une fois, voir comment ça se passe. On apprend tellement de choses.
Il y avait énormément de monde, je l'ai dit, de partout en France. Il y avait des gens
de
Grenoble, de Lille et tout.
Bordeaux, Caen.
Ouais. Et oui, c'est une grande convention. Puis les conférences, c'était très intéressant. Nous, on n'a pas pu tout faire. On était 15 jours.
Oui,
les assises, c'était sur une semaine.
C'est ça.
Mais c'était très intéressant. Il y a celle de Bruxelles en novembre, j'ai vu, qui sont les assises européennes ou internationales. Je ne sais plus.
Je crois que c'est
européenne. C'est
sympa.
Après, c'est le même genre, mais je pense que ça réunit encore plus de monde.
Complètement.
Je pense que c'est plus grand. Mais ouais, à Tours, c'était.
Et je pense que ce sera peut-être un peu moins basé sur le sport, parce que là,
c'était centré sur
le sport. En tout cas, les conférences qu'on a faites, c'était sur le sport, mais c'est bien parce qu'on peut appliquer tout ça à plein de domaines. Par exemple, la conférence sur le journalisme ou supporter, ça peut être appliqué à la politique.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est souvent question de débat sur certaines chaînes de télévision, sur est-ce qu'il faut mettre une distance ou pas vis-à-vis de certains certains partis, certains clubs, certaines personnalités. C'est très intéressant, ces assises.
Mmh. Très oui. Content d'y être allé. Je ouais. Le referai, je pense.
Oui, oui, sûrement. L'année prochaine, on va tous se retrouver là-bas. Ouais. Et puis, t'en as pas parlé, mais on a fait la troisième conférence, oui. Du coup, qui était sur les gens qui ont créé leurs médias cette année. Et du coup, on voulait vous en parler aussi un petit peu et vous présenter justement les médias qui nous ont été présentés. Donc, on a eu le journal. Sur Internet, c'est lejournal.info. Qui est un peu relié aux idées de la radio, parce que c'est un journal anti-extrême droite, tellement anti-droite, entre guillemets, qu'ils ont mis sur leur site la citation « On peut être de gauche et avoir une bonne droite ». Je vous laisse en penser ce que vous voulez, moi j'aime beaucoup, beaucoup cette citation.
Cette citation est très drôle.
J'aime bien. On a eu aussi 60 millions de consommateurs. Alors je me souviens un peu de tout ce qu'ils ont dit eux, mais je sais qu'ils étaient genre ils avaient genre deux éditions, une normale entre guillemets et une visée pour la jeunesse. Donc ça j'ai bien aimé parce que ça apprend la consommation aux enfants entre guillemets, mais... voir comment gérer leur consommation. Merci Anaïs. Et le dernier c'était Cometa. Moi j'ai beaucoup aimé cette présentation là. C'est un journal qui est basé sur l'actualité de l'Europe de l'Est. Ils sont à 5 € par mois. Et j'ai bien aimé, ils ont eu une très bonne idée, et je suis pas la seule apparemment à avoir pensé ça, puisqu'ils sont énormément financés, justement parce que leur idée est originale. Alors ils aiment bien rester assez flous sur les limites de l'Est pour justement ne pas stéréotyper, et ils mettent une importance sur la place de la photo. Ils veulent décrire le monde à travers l'image et non à travers les mots pour mieux représenter. Et voilà, ils ont plusieurs rubriques, donc correspondance, ils ont une rubrique qui s'appelle « Je vous écris deux », donc... comme le nom l'indique, waouh, 1, 2, 3. C'est des rubriques qui sont écrites de pays étrangers. Et voilà, c'était super intéressant. Et moi, ça m'a pas mal inspirée. Ça pose la question de, est-ce qu'on pourrait écrire notre propre journal, nous aussi ?
Ça prouve que c'est possible de se lancer dans un milieu qui est très... ça dépend évidemment des secteurs du journalisme, mais très monopolisé. Par certains médias, il y avait une des questions qui avait été posée, notamment dans la conférence avec le directeur de la rédaction de l'équipe, où justement, est-ce que l'équipe, justement, ça monopolise pas le journalisme de sport ?
Oui, parce qu'il y avait un des conférenciers qui lançait des petits pics au directeur de l'équipe pour lui dire « tu monopolises un peu la place, laisse-le pour nous aussi ».
Mais ça pose ces questions-là. Mais du coup, ça prouve que c'est possible de se lancer dans des secteurs, et surtout que là, les trois qui nous ont été présentés sont assez originaux.
Oui, et tous très très différents.
Oui, très différents.
J'ai bien aimé, c'était pour tous les goûts, on va dire.
Non, mais ça prouve que c'est possible, c'est très intéressant.
Oui.
Parce qu'on n'entend jamais parler, en fait.
C'est ça, et puis au pire, ils vont nous présenter leurs idées, mais ils ne vont pas forcément nous parler de tous les problèmes, des soucis financiers, etc. Alors que là, ils nous en ont vraiment parlé de comment ils ont créé, de comment ils se sont financés, de
comment c'est distribué.
Oui, comment c'est distribué aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais oui.
Très intéressant.
Et ben on passe à un peu de musique avec Sub Fatima de KX9000.
Thank you.
de suite un petit jeu, vous le connaissez maintenant, toutes les semaines on le fait, le jeu des naissances et des morts animé par Sémilia.
Et oui, vous êtes prêts les amis?
Et réunis par Alexia.
Oui. Ah oui, 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 bah, oui.
Bonjour, en fait, j'arrive comme ça discrètement mais je reste pas discrète longtemps.
Allez, c'est parti, on commence avec une femme.
Oh.
Ah d'accord. Elle est née le 13 octobre 1925 et est morte du coup le 8 avril 2013 à Londres. C'est une femme d'État britannique qui a été première ministre du Royaume-Uni de 79 à 90.
Thatcher ?
Ouais.
J'en étais sûre. Bravo Alexia. C'est ça, c'est Thatcher.
Elle est morte en quelle année ?
2013. Ouais, 2013, pardon.
Ça, c'est marrant, je pensais qu'elle était décédée bien plus tôt que ça.
Ah ouais ?
C'est pour ça que ça m'a fait hésiter un peu plus.
Mais on en avait entendu parler beaucoup de son décès ?
Je sais pas. Sûrement.
Ouais, quand même.
Moi, j'en ai pas trop souvenir, mais sûrement, parce que bon, quand même. Hein.
Oui, c'est vrai que c'est pas...
C'était un sacré numéro, ça, cette histoire.
En même temps, nous trois, on avait genre
8 ans.
Et 9 ans.
Ouais.
Oui.
Moi, j'avais 23 ans.
On continue avec un homme cette fois-ci. Désolée Anaïs. Il est né le 25 octobre 81 à Malaga, en Espagne, et est mort le 8 avril 1973 en France, dans les Alpes-Maritimes. C'est un peintre, dessinateur, sculpteur et graveur
Picasso.
Espagnol. Et oui, bravo.
Mais par contre, t'as fait un bug sur les dates.
Il y a eu un bug sur les dates.
Arthur, on s'est regardé genre...
J'ai eu un bug, moi j'ai entendu le 73...
En fait, t'as dit mort en 73, mais né en 2000. Ouais.
1880, pardon.
Et t'as dit 1980.
Ah oui.
Et on s'est regardé avec Arthur.
Pour une fois qu'on fait attention à mes erreurs, parce ça, que souvent je fais des erreurs avec les dates.
Ça, c'est spécial, ça.
Les dates, ça aide un peu quand même. Oui, mais bon, j'ai quand même réussi.
T'as quand même trouvé.
Oui, mais moi j'étais perturbée par les dates. Moi j'étais plus dans le jeu, moi.
Mais tu sais pas, moi je fais multitâche. Je réfléchis, je suis là, il y a eu un bug, mais j'écoute quand même. Et je suis là, c'est bon, j'ai trouvé.
Trop forte. Bon, là, on va passer aux anniversaires. Parce qu'on a dit que des décès décédés en ce jour ensoleillé. Alors, encore un homme. Bah, il ne reste plus que des hommes, de toute façon.
Il y en a trop.
Voilà, je ne suis pas la seule à le penser.
Ouais. Il est né... Allez, on commence. Il est né le 8 avril 1859.
C'est bon, 1800, ça ?
Ouais. Okay. Ouais. En Autriche. Et il est mort le 26 avril 1938 en Allemagne nazie, du coup. C'est un philosophe et logicien, un Autrichien de naissance, du coup, et Prussien. C'est le fondateur de la phénoménologie. Ah oui, phénoménologie. Oh là là, je vais pas vous aider.
C'est quoi la phénoménologie ?
Ça me dit un truc, je sais plus.
C'est une influence majeure. Attends, quoi ? Qui eut une influence majeure ? Alors, oui. Je suis très, très cultivée.
Elle est préparée. Hein.
Je parle de... Ouais. Bon. Mais de toute façon, je l'ai dit, ça va pas du tout.
C'est pas grave.
Non, mais depuis tout à l'heure, je fais que des dingueries.
Passons. Passons. Qu'est-ce qu'il fait d'autre,
cet homme ? Il a étudié les mathématiques avec de grands philosophes, enfin de grands mathématiciens, du coup, comme Karl Weierstrass et Leo Konigsberger.
On connaît trop bien les maths, moi.
Ouais.
Et la philosophie, je ne sais pas si vous allez connaître, avec Franz Brentano et Karl Stumpf. Il a enseigné la philosophie, bah vous l'avez compris.
C'est un philosophe.
Je ne suis pas sûre que vous connaissiez.
C'est un philosophe assez récent, quoi.
Autrichien.
Si je pense,
Kant.
Si je pense
non.
Friedrich Ratzel.
Quoi ?
Non.
Friedrich Ratzel.
Non.
Il me semble que c'est la même époque.
J'ai un cours de sciences humaines, donc forcément, j'ai
donc là, on t'attend en tournant.
Boas, Franz Boas.
Non.
Moi, j'y connais
rien. Max Weber.
Non.
En philosophie.
En Autriche.
Autriche.
Je suis sûre qu'on
ça a été le professeur de Freud.
Ah
non, c'est pas lui, pardon.
Non.
Je dis n'importe quoi.
Mais parce qu'il est pas vraiment philosophe, Freud.
Ah bah, il est considéré comme philosophe, mais après...
C'est un psychanalyste.
Psychanalyste, ouais.
Tout le monde est d'accord ou pas d'accord.
Vous séchez ?
Ah oui.
Eh bien, on parlait de Edmund Husserl. Husserl.
Ah non.
Vous le connaissiez.
J'adore faire des bruits, genre...
On a vu ça.
Okay. Ah là, je l'avais pas là.
Ah non, pas du tout non plus.
Bon, bah, désolé, je pensais. Tant pis, c'est pas grave.
Désolé, je vous pensais plus intelligent que ça. autant pour moi.
Mais non. Oh. Bref. Ah, passons.
On est nuls.
Mais non, c'est parce que je dis. Allez, on continue. Vous rattrapez là. Non, je rigole.
agression. Ok, ok, je pose les mains sur la table, je suis prête.
Je nous sens agressée là.
Ouais, allez Arthur, Anaïs, il faut y aller là, sinon c'est la honte.
Non, c'est pas... Mais non, c'est horrible, je suis pas comme ça. C'est ta faute, Alexia, là. Tu me mets dans la
sauce. Moi, je fous sur la merde.
J'adore.
Je remue la merde.
Bon, allez. Non, c'est encore un homme, du coup, qu'on cherche. Il est né le 8 avril 1929 en Belgique et est mort le 9 octobre 1978 à Bobigny, en France. C'est un auteur, compositeur, interprète, poète, acteur et réalisateur belge. Il est considéré
comme... Jacques Brel.
Oui.
C'est rapide.
Ouais, t'as dit belge, j'étais sur RG, mais... Le Tintin, mais...
Ouais. C'est un icône.
C'est le seul que j'avais.
Et un des plus grands auteurs interprètes de la chanson française, Jacques Brel, avec « Ne me quitte pas, Amsterdam, quand on n'a que l'amour, la valse a mis le temps ». Vous connaissez
oui.
Ça
oui.
Des
oui.
classiques.
T'as voulu aller à Vesoul, on est allé à Vesoul.
Ouais,
c'est
Vesoul.
Aussi, ça.
Ouais, c'est ça. Et ben voilà, et on finit avec une dernière célébrité.
Boup, boup.
Qui est né en ce jour ensoleillé, né le 8 avril 1950 à Amiens et mort le 2 mars 2022 à Paris. C'est un journaliste et présentateur de télévision française.
Jean-Pierre Pernaut.
Ouais,
pourquoi vous l'avez pas dit, Anaïs?
Ben oui.
Parce que tu nous l'as dit tout à l'heure, on n'allait pas dire. Bah, oh, oui. Mais
vous avez pas donné des points à Alexia. En plus, bah. Journaliste.
Mais moi, j'ai besoin de personne pour avoir des points.
Elle l'a dit si vite en plus que bon.
Un grand homme qui nous a inspiré, nous, futurs journalistes, n'est-ce
ah ouais
pas
petit... bah, ah d'accord.
Oh, mais ça va pas ou quoi?
Bon, en tout cas, j'ai encore gagné. Aujourd'hui, il y a du soleil, donc j'ai aucune modestie. Désolée, je sais pas pourquoi, ça va ensemble.
Bah, merci Alexia d'avoir participé à ce jeu et d'avoir encore gagné.
Et ouais,
oui, comme toujours.
Mais peut-être un jour quelqu'un prendra ma place en gagnant ce jeu. Peut-être Thomas, notre nouvelle arrivée, viendra
oui,
aussi
vrai, peut-être.
Venir participer. Et je suis sûre qu'il fera un très bon concurrent.
On lui proposera pour la semaine prochaine. Ce sera notre dernière en plus de l'année. Donc,
Dernière de toute l'année?
Bah on pense, ouais, on pense pas revenir. Bah on finit les cours la semaine prochaine.
On gagne jamais au jeu, du coup.
C'est la seule raison.
Merci de m'avoir invité.
Bah, pas de soucis, ça nous fait plaisir.
Et écoute ta fac, c'est fini malheureusement. Il est 12h55. On vous dit au revoir.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine
pour la dernière. Et je vous mets un peu de musique, comme d'habitude, avec Scrub a Dopam de Billion of Comrades. Scapa par 6, Scapa!